chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles.
À Versailles, au château et aux rois qui ont fait la France. Chers auditeurs, Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous retrouver. Depuis les studios d'Urocast de Radio Grand Ciel, j'ai eu une très grande joie ce samedi, puisque mon amie Laurence Martin m'a invitée à découvrir, tenez-vous bien, son abbaye. Elle est à 15 km de Dreux et je n'avais jamais entendu parler de ce monument, ni vu naturellement. Bonjour Laurence.
Bonjour Marie-France.
Merci de m'avoir rejointe dans les studios de Radio Grand Ciel.
Merci de nous accueillir.
Vous venez dans ces studios avec votre amie Marie-Hélène, qui est responsable de l'association de l'abbaye.
Présidente de l'abbatiale.
Présidente de l'abbatiale.
Bonjour, bonjour.
Voilà un très joli titre, Marie-Hélène. Laurence, désormais je vais t'appeler la duchesse de Normandie, parce que en réalité, ton abbaye fait partie du duché de Normandie.
Ah oui, j'ai pris un grade. Écoute, oui, donc nous sommes en Normandie, c'est la porte de la Normandie. Donc on est situé entre Saint-Georges-Motel, Marcy-sur-Eure et Louis.
Donc, Louis, où il y avait d'ailleurs un château, si mes souvenirs sont bons.
Oui, un très beau château. Ouais.
Et il est toujours debout, ce château?
Ah oui, bien sûr.
Aussi.
Ouais,
Et vous avez des contacts avec les autres châtelains?
Alors, on se connaît un petit peu, oui, on arrive à se côtoyer, mais on est très pris par nos travaux, par toute notre entreprise sur place.
Restaurer, j'allais dire, quand on n'a plus qu'une ruine sur son terrain, dans son bois, comme c'est le cas pour Nathalie Velin à Guinville, c'est encore toute une autre affaire, mais toi, tu n'es pas en ruine. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Oui, c'est une chance, mais bon, il y a quand même une partie disparue de l'abbaye. Donc, sur les cartes IGN, nous sommes mentionnés comme ruines.
Ah oui.
Parce que, en fait, l'église abbatiale a été démolie à la Révolution.
Bien sûr.
Donc, le transept a disparu. Et le chœur on peut dire que ce sont des ruines romantiques.
Oh, c'est charmant ça aussi.
Mais bon, il y a de très beaux restes. Nous avons la chance d'avoir un très beau vaisseau avec cette abbatiale, donc cette église abbatiale, d'où vient le nom donc de notre association. Et voilà, donc l'histoire remonte en 1137, date de la fondation de l'abbaye. Le seigneur Foulque de Marcilly a appelé des moines des Vaux de Cernay, de l'abbaye des Vaux de Cernay.
Qui n'est pas très loin.
Non, pas très loin, donc dans la vallée de Chevreuse. C'est une très belle abbaye aussi.
Magnifique.
Voilà, à visiter. Ouais. Et ils sont venus donc prendre possession des lieux, du terrain. Et Breuil-Benoît veut dire petit bois. Enfin, Breuil veut dire petit bois.
C'est donc, en fait une grande forêt.
Oui, c'est une forêt. Il y a de l'eau, beaucoup d'eau. On est très proche de l'Eure. Et le seigneur de Marcilly donc, a appelé les moines et leur a laissé un terrain assez vierge sur lequel ils ont fondé cette abbaye.
Tu veux dire qu'ils l'ont construite?
Ah oui, tout à fait, oui. Donc la fondation...
On donne le terrain, on appelle les moines et hop.
Voilà, et les murs...
Et les murs sortent de terre.
Voilà, sortent de terre. Bon, c'est vrai que ça ne se fait pas aussi rapidement qu'aujourd'hui avec toutes nos techniques modernes. Mais donc il y a d'abord l'installation des moines et ensuite l'installation de chaque partie de l'abbaye. Toutes les abbayes sont faites sur le même plan. Donc c'est pour ça qu'on a pu reconstituer aussi les parties manquantes actuelles. Mais bon, on a quand même un très beau vestige qui est cette église abbatiale qui date du XIIIe. Elle a été fondée, enfin XIIe, presque XIIIe. Elle a été construite en 1190. Donc après l'arrivée des moines...
C'est... Et alors Guillaume de Marcilly revenait de croisade. Alors c'était peut-être un vœu qu'il avait fait.
Tout à fait, oui. Il y a une légende qui raconte que le fils du seigneur de Marcilly, donc Guillaume, est parti en croisade et avait fait vœu de construire cette église s'il revenait vivant.
J'ai cherché quel était le numéro de la croisade, mais je n'ai pas trouvé.
Alors moi, je ne la connais pas. Je chercherai aussi.
Je pense que Régis va te la trouver.
Voilà, et elle a été consacrée en 1224, donc finalement très peu de temps après. Quoi.
Oui, exactement. C'est donc sous le vocable de Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste. Alors elle est devenue cistercienne 10 ans après sa fondation. Et donc, bon, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés avec les années. Donc, bon, il y a eu les moines, la présence des moines avec cette construction magnifique. Ensuite, bon, c'est vrai, ils ne se sont pas juste consacrés à l'abbaye proprement dit. Ils avaient des terrains autour.
Il y avait même alors là, tu parles des cisterciens, mais il y avait les Savignens avant.
Alors, c'était les Bénédictins au départ.
Les Bénédictins.
Voilà. Et bon, ils sont devenus très rapidement cisterciens lorsqu'il y a eu la révision de la règle de Saint-Benoît. Et donc, voilà, donc ils se sont installés sur les lieux et on a l'honneur un peu de savoir que cette église est la seule église sur pied en Normandie.
Sur pied et oui. Sur pierre. Je trouve absolument étrange cette coupure dans ce monument, c'est important d'ailleurs. Mais donc, on ne peut pas parler, la partie quand tu m'as fait visiter, c'était à gauche, le transept, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est cette partie-là qui est disparue au moment de la Révolution.
Mais il n'y a plus que le fond du transept.
Alors, le transept n'existe pas. Pratiquement plus, il reste quelques murs. Mais par contre, ce qui est derrière, c'est-à-dire derrière le transept, c'est le chœur. Il y a des chapelles, il y a un déambulatoire avec des chapelles.
Et le, elles sont le cloître que, où je vous ai photographié avec ton époux,
oui.
C'était sur le côté, c'était alors, c'est adossé à cette abbaye ou bien c'était complètement coupé de l'abbaye.
Alors le cloître, c'est vraiment le cœur de toute abbaye, c'est-à-dire c'est le centre, le point presque névralgique de l'abbaye, où on trouve généralement des fontaines, des jardins simples, et où se déroule toute la vie de l'abbaye. Alors on a une course, alors il faut se l'imaginer, et ça on le raconte bien quand nos visiteurs viennent à l'abbaye, parce qu'on a beaucoup d'imagination pour essayer de retrouver un petit peu, replacer les choses. Mais où se situait autour de cloître, on avait une galerie, ça s'appelait la galerie du cloître, qui permettait de distribuer à la fois l'église, la salle capitulaire et toutes les autres parties de l'abbaye.
Heureusement, il reste beaucoup encore de cloîtres en France, malgré la Révolution, et il s'est produit quelque chose d'assez étrange, d'ailleurs je ne sais pas exactement à quel moment, mais nous avons visité, mon mari et moi, les cloisters à New York, où ont été rapatriés énormément de cloîtres de France, qui étaient sur le point de disparaître parce que, où ils étaient détruits sauvagement par la Révolution, ou bien tout simplement détruits par les voisins qui voulaient des pierres. Et en particulier, je me souviens d'un cloître de Bourgogne, bon sang, le nom du village m'échappe, mais c'est une splendeur. Et c'est assez étrange de retrouver ça à New York, dans un endroit privilégié, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est... On dirait que toutes les prières qui ont été dites dans ces cloîtres se sont transportées au-dessus de l'océan. Bon, je sais, ça fait un peu romantique de dire ça, mais on sent vraiment quelque chose d'assez étrange. Enfin, les âmes suivent, quoi, les pierres. Et est-ce que tu ressens ça aussi dans ton abbaye ? Est-ce qu'il y a encore des...
Une âme.
Une âme,
ouais. Oui, tout à fait. On le ressent très fortement, et surtout, même quand les visiteurs viennent, quand les personnes viennent pour la première ou même la 10e fois, on se sent presque hors du temps.
Complètement hors du temps.
On est transporté.
Et puis on franchit ce porche qui est magnifique. Tu ouvres la porte avec la clé, la grande porte. Et à l'intérieur, immédiatement, la voix se baisse. C'est naturel. On ressent quelque chose d'assez fantastique. Je trouve que c'est vraiment des endroits privilégiés.
Thank you.
C'est bien que ça perdure.
On est très gâtés.
Ça doit pas être facile.
C'est pas facile, mais bon, bah, on est un peu de la partie, comme on dit. On est architecte, mon mari et moi-même.
Vous êtes architecte tous les deux.
Voilà. Donc on sait lire le monument, on comprend quelque part, et on l'accompagne un peu dans cette restauration qui est toute notre vie.
Oui, mais comme vous le disiez très bien, Marie-France, tout à l'heure, c'est vrai, quand on arrive dans ce lieu, chaque fois que j'y reviens, moi, j'ai la même impression, la même sensation de bien-être,
oui,
et de paix.
Ah, une paix incroyable.
Voilà, et on vit tous dans un monde un peu turbulent, chaotique, avec tout ce qu'on
peut
rencontrer.
Oui, mais là, on est en dehors de la fureur du monde.
Voilà, exactement, c'est un endroit complètement à part, et on ressent un bien-être, mais total, et une paix dans ce lieu. Voilà, c'est une coupure complète par rapport à notre vie de tous les jours.
Un miracle.
Voilà, et à chaque fois que j'y retourne, moi, je me dis, mais voilà, on est hors du temps, on est coupé du temps. Et c'est un endroit fantastique pour ça. Voilà.
En plus, avec une acoustique qui doit être extraordinaire.
Oui.
Alors,
oui.
Pour vos concerts, c'est merveilleux, ça.
Ah oui, ça, c'est une opportunité. Ouais,
mais vous nous déclinerez tout cela dans une deuxième émission.
Avec grand plaisir.
Je reviens à cet entretien qui est... on peut parler de réparation, de restauration. Et ton mari est vraiment tout à fait au fait des choses en plus, parce qu'il a des fonctions pour les monuments historiques.
Oui, il est architecte des monuments historiques.
Et en quoi consiste son rôle ?
De restaurer des monuments anciens, que ce soit des monuments privés, des monuments d'État. Donc, donc c'est sûr que arriver à vivre dans un monument historique, c'était un peu l'avènement de son rêve.
Il est toute la journée au travail, quoi.
Exactement, même le week-end.
Non, mais c'est fantastique. Mais on se demande finalement, je suppose que quand tu arrives dans un truc comme ça, tu te dis, mais je commence par quoi ?
Oui,
et puis tu m'avais raconté, moi ça m'avait frappé parce que j'ai rencontré Laurence et Régis par l'école, l'Institut Saint-Pierre-Saint-Paul où nos enfants étaient inscrits. Et Laurence m'avait dit, quand je suis arrivée, mais voilà, nous n'avions qu'une seule pièce. Tu avais déjà trois enfants. Mmh, et j'essayais d'imaginer Laurence en me disant, mais comment a-t-elle fait pour commencer à se retrousser les manches et à travailler pour...
Et en fait, quand vous avez acquis l'endroit, bon, il y avait l'abbaye, ça c'est sûr, on ne pouvait pas ne pas la voir. Mais vous aviez des bâtiments à côté dans lesquels vous vous êtes installée.
Alors oui, c'est les bâtiments, les anciens bâtiments des moines qui avaient été remaniés. Mais bon, c'est vrai que le lieu était abandonné depuis 30 ans, donc il a fallu tout refaire. On répartissait notre temps entre l'église qui nous souciait beaucoup et notre installation sur place également.
Ah oui, parce qu'il faut bien vivre quelque part malgré tout. Et surtout avec trois enfants, ça ne doit pas être simple en effet.
Oui.
Mais... vous avez fait des priorités, parce que la priorité c'était peut-être aussi d'éviter, enfin je ne sais pas dans quel état vous aviez trouvé l'abbaye, mais elle était peut-être sur le point de s'écrouler.
Alors on avait un gros souci, oui, il pleuvait dans l'église et elle n'était pas hors d'air non plus puisque...
Tu m'as parlé d'arbres aussi qui poussaient dedans.
Oui, il y avait un arbre qui poussait à la base de la tourelle d'escalier.
L'arbre de Judée naturellement.
Alors, bon, tout était un peu déséquilibré. À l'intérieur, la nef était envahie par les pigeons. Enfin, c'était... La végétation avait poussé un peu partout aussi. Sur les vitraux, on ne voyait pas les vitraux du chœur. Il a fallu découper au ciseau très précautionneusement le lierre pour redonner vie à tout cela.
Mais d'un autre côté, peut-être, en particulier le lierre sur les vitraux, peut-être que ça les a protégés.
Oui, peut-être, je ne sais pas. Enfin, la végétation, vaut mieux qu'elle soit un peu domptée dans ce genre de monument.
Les vitraux sont magnifiques. Ils ont été faits au 19e siècle. J'imagine que ceux de la Révolution, enfin ceux de la construction, naturellement, avaient complètement disparu. Il n'y avait plus rien.
Non, il n'y avait plus rien d'origine. Puisque les vitraux, normalement cisterciens, sont dépourvus de couleurs et de figures. Donc les vitraux cisterciens doivent être très très sobres. Donc généralement, ce sont des vitraux qui sont comme des grisailles.
Translucides, mais enfin des grisailles sans sujet en fait.
Sans sujet, mais ça peut comporter des motifs assez géométriques. Mm-hmm. Mais donc il n'y avait pas de représentation. Alors que là, nous avons des vitraux très colorés.
Ah oui, c'est
et
magnifique.
Et là, on est transporté dans le 19e siècle grâce au comte de Rézé, donc qui a commandé ces vitraux, qui lui donc était grand collectionneur aussi, esthète. Donc et lui, il a entrepris la restauration donc au 19e siècle. Il est arrivé au moment aussi où l'abbaye était un peu en danger. Voilà, donc il est parti dans une grande restauration. Il s'est installé à côté de l'abbaye, dans l'ancien palais abbatial, qui est actuellement un château. Et donc il a restauré cette église et en a fait son musée. Donc,
oui, le père abbé à l'époque était très bien logé.
Oui, tout à fait.
Mais alors donc ce comte de Rézé a commencé, j'imagine, par boucher le bout de l'abbatiale qui était éventrée.
Alors c'était déjà fermé, il me semble, parce que l'église avait servi de grange. Entre la Révolution et l'arrivée du comte de Rézé, elle avait quand même été utilisée, et peut-être comme grange à foin. Donc
ça lui a évité d'être complètement démoli, sûrement.
Tout à fait. Donc en fait, on avait un mur plus ou moins aveugle. Enfin, on a des gravures qui nous montrent un petit peu l'état dans lequel c'était. Et donc le comte de Rézé a créé une rose, a installé des vitraux qu'il avait commandés à un maître verrier d'Évreux. Du Hamel Marette. Donc, on a des panneaux de la vie du Christ. On a une belle Jeanne d'Arc aussi dans le cœur.
Elle est splendide, avec son étendard. Waouh, superbe, vraiment superbe.
Avec en fond, alors je ne sais pas si vous aviez remarqué, on a l'abbaye qui est représentée sur le vitrail.
Oui. J'ai vu dans le haut, à gauche, oui, je l'ai vu et j'ai fait des photos. Vous pouvez les consulter sur mon Instagram, chers auditeurs, ces photos. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Et ce qui est extraordinaire, c'est, tu me dis que les vitraux datent du 19e siècle, mais ils ont donc échappé aux guerres.
Oui, il n'y a pas eu trop de...
C'était un coin tranquille, finalement.
On ose l'espérer.
Le Brouille-Noir.
Mais on ne le voit pas du tout de la rue.
Pas du tout.
Enfin, de la route.
Et puis, il y a cette grande avenue qui fait combien de kilomètres?
L'avenue, quand on arrive, à peine un kilomètre.
Ah, mais moi, ça m'a paru long. Je me suis dit, mais c'est majestueux, long. D'ailleurs. Mm-hmm. C'est très, très joli. C'est bordé par des arbres que vous avez plantés.
Qu'on a replantés, des érables.
Ah, des érables. À l'automne, c'est tout rouge. Ça doit être magnifique. Oui, j'en reviendrai.
Alors, ce n'est pas les érables...
Du Canada.
Non.
Ils sont dorés.
Ils sont dorés, c'est magnifique. D'ailleurs, ils restent très longtemps en feuilles et c'est notre rayon de soleil quand on arrive.
Alors, ces vitraux, je reviens aux vitraux parce que vraiment, ça m'a marqué. C'est extrêmement coloré, comme tu le disais, mais les représentations sont très belles aussi. Les visages, c'est... je pensais que ça avait été fait à Chartres parce que, évidemment, pour tout le monde, les vitraux, c'est Chartres. Mais il y avait donc
Évreux.
Quelqu'un qui les faisait à Évreux. Mmh. Et ça perdure, cet atelier?
Alors, les ateliers de maître verrier, on en a partout.
Ah oui.
Bon, on en a beaucoup à Chartres, ça c'est évident. On en a fait travailler pour la restauration de la rose. Et puis, lorsqu'on a des petites restaurations sur certains vitraux, voilà, on fait appel aussi à des maîtres verriers de Chartres.
Oui, parce que Laurence et Régis continuent à restaurer les vitraux. Hein. C'est un travail
de longue haleine.
Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, tu as fait remarquer à ton époux un petit manque sur
la rose,
la rose,
la protection.
Oui, mais celle qui est colorée et que j'ai photographiée, je ne sais plus si elle est au-dessus de l'autel ou de l'autre côté.
Alors, On la voit quand on entre dans l'église, donc elle est, oui, au-dessus de l'église, au-dessus de l'autel, je veux dire. Et on l'avait, en arrivant, on l'a protégée par un verre simple pour la protéger, pour fermer l'église.
C'est pour ça qu'on ne la voit pas de l'extérieur, voilà. Qu'on ne voit pas les couleurs. Oui, oui, je comprends.
On la découvre en entrant dans l'église.
Et toutes ces pierres qui ont été volées à la Révolution, parce que ton époux me disait qu'en fait, ce n'était pas vraiment une destruction révolutionnaire, mais plutôt utilitaire, puisque c'était des gens qui avaient démoli pour prendre les pierres. Vous en avez récupéré quelques-unes ?
Pas vraiment.
Dans le voisinage ou bien...
Non. Alors, quelquefois, c'est amusant. Des personnes nous préviennent en nous disant « Nous avons vu une pierre. » Alors, on se déplace.
Alors là, vous y allez avec le burin et...
En fait, dans notre restauration, on met des pierres neuves. C'est sûr que bon, on restitue. Mais là, on a restauré donc des contreforts. Donc, avec des pierres
neuves. Je sais si c'est important, mais parce que le nom, on voit tout à fait à quoi ça sert. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, quand on refait sur des grands monuments, comme je voyais sur Notre-Dame de Paris, effectivement, ils rapportent des pierres qu'ils resculptent.
Oui, bien sûr.
Des nouvelles pierres.
Alors, elles sont patinées, parce que c'est vrai que c'est souvent la restauration est peut-être trop flagrante quand on a un monument restauré. Mais bon, c'est important de mettre un bon matériau,
oui, bien solide. C'est toujours joli, hein. Même si c'est neuf, on admire. Et ce qui est amusant aussi, c'est que parfois les gens vous préviennent. Tu m'avais raconté qu'en salle des ventes, il y avait eu un objet, enfin une châsse, qui avait été mise aux enchères et qui avait appartenu à l'abbaye. Et donc c'est important, comme ça, enfin quand vous êtes au courant de ce genre de vente.
Peut-être qu'il y a une sorte de préemption qui peut être réalisée par l'État et restituée à votre monument. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Je ne sais pas très
bien. J'ai vu une vente aux enchères où le marteau est tombé et il y a quelqu'un qui se lève. Monuments historiques, préemption. Bon.
Ah oui,
c'est très, très efficace. D'ailleurs, tant mieux, ça évite aux choses de partir à l'étranger et d'être restituées dans les musées. Oui. Quoi qu'on peut déplorer qu'il y ait énormément de choses, en réalité, qui appartiennent au musée et très peu de choses qui soient exposées. Alors, il parle de roulement, d'entretien, mais c'est vrai qu'il y a eu un différentiel absolument énorme entre les choses qui sont possédées par l'État et celles qu'on voit.
Ils ont des réserves qui sont bien pleines.
Alors, vous, vos réserves, elles sont pleines, j'imagine.
Alors, on a des réserves. On a replacé une croix donc sur le tympan. Une croix qui était au sol, donc on a pu remettre au moment de la restauration de la nef, de la toiture de la nef. Voilà, les vieilles pierres nous intéressent quand même. on leur trouve une place.
Et alors, il y a quelque chose de merveilleux. Les habitants de l'abbaye, les statues...
Oui, on a quelques statues intéressantes qui ont été récupérées par le comte de Rézé au moment où finalement elles n'intéressaient personne, où elles allaient disparaître.
Et c'était dans les années fin du 19e ?
Oui, le comte de Rézé est arrivé en 1842.
Milieu du 19e.
Oui. Donc il a remeublé l'église donc à la manière du 19e.
Et les stalles ?
Et les stalles, alors ça, c'est plus nous. On a trouvé des stalles, on nous a proposé des stalles même d'ailleurs, une congrégation religieuse qui se devisait de leurs stalles.
Nous ont vendu des stalles.
Oui, donc il faut meubler quand même. Surtout que quand il y a des concerts, il faut bien asseoir les spectateurs.
Mais elles sont tout à fait à leur place. En fait, moi, je pensais que c'était vraiment celle de l'abbaye. Hein.
Non, on n'a pas eu de stalles conservées. On doit en avoir deux ou trois anciennes. Et donc là, nous, notre projet avec l'association, c'est de restaurer les stalles que nous avons récupérées. Donc on a commencé la restauration, on a déjà 10 belles stalles en place.
Ah, magnifique.
Et voilà,
Alors, tu les cires tous les matins ?
Une ou deux fois par an, en fait, tous les bénévoles de l'association retroussent leurs manches et bien aidés.
Pour installer les VIP.
Pour recevoir les musiciens.
Et oui, bien sûr. Voilà, il y a une vierge extraordinaire. Elle a un visage, mais... C'est merveilleux. Vous allez la replacer avec son Saint Jean-Baptiste, qui est superbe aussi à côté. Vous allez refaire ce...
On a toujours beaucoup espoir de restaurer aussi, parce que les statues sont fatiguées.
Ah, mais on les voit bien, hein.
Donc, voilà, on les, On va voir un petit peu dans notre plan de restauration vers quelle direction on va. Souvent, on va au plus urgent, c'est
sûr. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est toujours l'urgence. Voilà. En fait.
Mais bon, bah, maintenant, on est hors dehors d'air, on sait que les choses sont protégées dans l'abbaye, donc déjà, ça, c'est... on est rassurés.
Ça, c'est formidable. Et vous êtes aidé par le gouvernement, par les monuments historiques ou par l'association des vieilles maisons de France ou je ne sais quoi
Alors, on a été aidé pour la restauration, oui, parce qu'on est classé monument historique. Mm-hmm. Donc, pour les travaux, on a été aidé. Et puis, bon, après...
Depuis 93, enfin 1993, parce qu'en 1793, c'était différent.
Oui, oui, elle a été classée à ce moment-là. Nous, nous sommes arrivés après, en 95. Et bon, on s'est lancé vraiment dans la restauration très rapidement, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et donc, on a commencé par la couverture, ensuite le redressement de la toile d'escalier... qui n'a pas été une mince affaire.
C'était la tour de Pise.
Oui, exactement. On a trouvé des ingénieurs qui avaient travaillé sur le... Voilà, qui étaient très inspirés.
Ah, mais je le savais. Laurence, merci infiniment d'être venue dans ces studios. Je suis vraiment ravie de t'avoir reçue. Et puis, j'espère que ton époux viendra lui aussi nous parler de son abbaye. Et, chers auditeurs, nous allons vous retrouver pour une autre émission, plus précisément consacrée aux concerts qui ont lieu dans ce lieu magnifique. Roland Richard enregistre cette émission et la réalisera pour vous. À bientôt dans une autre émission de Bienvenue chez le Roi sur les ondes de Radio Grand Ciel. Au revoir.